Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Inde aujourd'hui, où la vente sur les marchés de bétail destiné à l'abattoir est interdite depuis mai dernier et depuis donc la circulaire du gouvernement menée par les nationalistes hindous. Cela fait suite à la fermeture de milliers de boucheries dans l'état de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays et récemment conquis par le même parti hindouiste. Cette répression du commerce de viande frappe de plein fouet une industrie florissante, majoritairement tenue par les musulmans et qui a propulsé l'Inde à la place de premier exportateur de viande de bœuf au monde. Les dirigeants hindouistes justifient cette offensive au nom de la défense de la vache sacrée. Et dans ce combat idéologique, des militants extrémistes attaquent de plus en plus de camions de bétail. Des dizaines de conducteurs ont été tués, et là encore souvent des musulmans. En fait, pour certains, cette lutte au nom de la vache serait un étendard pour transformer l'Inde en un pays théocratique, la nation des hindous. Inde, la guerre sacrée créé au nom de la vache. Grand reportage, signé Sébastien Farcy.
L'esplanade du marché de Shamshabad est étonnamment déserte et calme. Quelques buffles gambadent sans être inquiétés alors que les commerçants sont assis dans un coin ombragé. Il y a quelques mois, ces marchands de bétail avaient à peine le temps de boire un thé dans le vacarme animalier. Aujourd'hui, ils patientent en silence, dépités.
Avant, nous pouvions recevoir 200, 300 ou 400 buffles par jour. Maintenant, si 50 viennent, c'est bien. Les fermiers ont maintenant trop peur de se déplacer.
Cette bourgade est située à 12 km d'Agra, dans l'état de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé en Inde. Et ces commerçants, qui sont en majorité des musulmans, sont frappés de plein fouet par deux nouvelles régulations édictées par le gouvernement régional et fédéral. Cela commence en mars, avec l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous du parti du BJP dans la région. La formation nomme alors un militant hindouiste à la tête de ce gigantesque état et de ses 200 millions d'habitants. Quelques jours après, cet homme au crâne rasé et à la tunique religieuse safran ordonne la fermeture des boucheries qui ne respecteraient pas les règles d'hygiène. Des milliers doivent alors tirer le rideau et leurs licences sont rarement renouvelées. Puis, à la fin mai, le gouvernement central, également tenu par les hindouistes, passe un décret qui interdit la vente de tout bétail sur un marché, que ce soit une vache, un buffle ou un chameau, si cela a pour but de l'envoyer à l'abattoir. Ces bouchers sont maintenant censés se rendre directement chez les fermiers pour se fournir en bétail, ce qui est irréaliste. Jusqu'à présent, 90% de ces transactions se réalisaient sur les marchés. Chirag Guttin, commerçant musulman de bétail de Shamshabad, est furieux.
J'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires en quelques mois. Regardez, tous les bouchers sont fermés autour de nous. Le gouvernement a promis de nous redonner des licences, mais il ne se passe rien. Ils sont censés traiter tout le monde de la même façon, mais ces dirigeants sont des religieux avant tout. Ils veulent mettre tout le monde aux épinards et aux lentilles.
En Uttar Pradesh, un habitant sur cinq est musulman, mais ce nouveau ministre en chef de l'État, lui, est un hindouiste radical. Yogi Adityanath est un prêtre converti à la politique. Il dirige un mouvement qui milite pour la transformation de l'Inde en une nation hindoue. Et ce végétarien est un défenseur chevronné de la vache, cet animal sacré, qui serait, selon ses radicaux, abattu illégalement par les bouchers musulmans. Cependant, ce ne sont pas seulement les musulmans et les commerçants de viande qui sont affectés aujourd'hui, mais toute l'économie agricole. Car la plupart des fermiers ont des buffles qui leur fournissent environ 10 litres de lait par animal et par jour, ce qui leur offre un revenu stable, alors que les rendements des terres sont plus précaires à cause des récentes sécheresses. Mais cet équilibre n'est possible que si ces fermiers peuvent revendre aux abattoirs les vieux animaux non productifs afin de racheter de plus jeunes. Or, tout ce cycle est maintenant rompu par ces différentes interdictions. Aman Rafik, un éleveur âgé et pauvre de la région d'Agra, est désespéré.
J'ai 5 buffles, mais il n'y en a plus que 3 qui donnent du lait. J'ai essayé d'aller vendre mes buffles au marché, mais les policiers m'ont arrêté. Ils m'ont demandé 2000 roupies de pot de vin pour me laisser passer. Mais je n'avais pas d'argent, alors je suis rentré sans vendre mes animaux. Maintenant, nous devons nourrir ces bêtes, mais nous n'avons plus assez de revenus pour cela. Nous devons emprunter, mais vu la situation, qui va nous prêter de l'argent ?
Dans cette zone agricole, la situation commence à alarmer tout le monde, y compris les élus hindous du village d'à côté de Shamshabad. Sunil Sikarvar est éleveur et chef du bourg de Sikra.
Les fermiers ne peuvent plus revendre leurs vieilles bêtes, mais ne peuvent plus les nourrir non plus, donc ils les abandonnent. Et ces animaux envahissent les plantations. Un groupe de 40 ou 50 buffles peut manger tout un champ de blé en une nuit. Cela est en train d'affecter la vie des fermiers et de ruiner beaucoup de monde, et le gouvernement va devoir faire quelque chose pour cela. Personnellement, je crois qu'il faut respecter la vache sacrée. Mais pourquoi restreindre le commerce de buffles ou de moutons ?
À peine un tiers de la population indienne est végétarienne, mais dans l'état de l'Uttar Pradesh, c'est maintenant cette minorité qui fait la loi. La plupart des bouchers, accusés de travailler dans de mauvaises conditions d'hygiène, n'ont en effet plus de licence pour opérer, et donc acheter de la viande devient une mission périlleuse. Ritu Singh est une étudiante de 21 ans d'Agra. Elle est hindoue, mais elle et sa sœur aiment manger du poulet ou du mouton. Les deux jeunes femmes ont donc un jour décidé de braver l'interdit du moment et d'aller à la quête d'un bout de viande rouge.
Il y a peu de temps, nous avons essayé de trouver de la viande avec ma sœur. Quand elle est allée dans nos magasins habituels, ils étaient tous fermés et leur numéro ne répondait pas. Donc nous avons cherché d'autres numéros grâce à Google. Nous avons appelé un homme, mais il se trouvait très loin, à environ 10-12 km de chez nous. Son magasin était fermé, mais il était prêt à nous fournir. Nous voulions de la viande de mouton, mais nous ne pouvions pas vraiment choisir les morceaux, donc nous lui avons seulement expliqué par téléphone quelle partie nous voulions et espérions que cela se passerait bien.
Et ensuite, comment avez-vous procédé pour la transaction ?
Nous nous sommes retrouvés à mi-chemin. Nous avons attendu pendant 15 minutes, il est arrivé avec une camionnette, il y avait des policiers partout qui fouillaient les magasins de viande. Le vendeur ne pouvait donc pas sortir du véhicule. Nous nous sommes approchés, il a déposé le paquet dans notre sac. Nous lui avons passé l'argent et nous sommes partis. Alors on s'est dit, mais est-ce qu'on est en train de trafiquer de la drogue ou quoi ? C'est pas juste de faire cela, c'est seulement de la nourriture. L'alimentation n'est pas religieuse, je suis désolée. Ce n'est pas votre caste qui doit décider de ce que vous mangez, mais votre goût. Si vous aimez, vous mangez.
Les militants hindouistes régionaux ont refusé de répondre à nos questions. Le gouvernement fédéral, quant à lui, nie mener une offensive idéologique. Nalin Kolir est le porte-parole national du parti du BJP.
La loi que nous avons modifiée concerne la cruauté envers les animaux et a été adoptée dans les années 70 par un gouvernement mené par le parti du Congrès. Celle-ci traite seulement du bétail vendu pour des raisons agricoles et non de celui pour l'abattage. La Cour suprême nous a maintenant ordonné d'émettre un décret d'application. Ce que nous avons fait, le principe de ce texte est que le bétail prévu pour l'agriculture ne doit pas finir à l'abattoir et que les deux marchés doivent être séparés. Cette différence est importante pour respecter les sensibilités religieuses et autres. Mais si l'application de ce décret engendre des problèmes, nous pouvons le modifier. Cependant, ce texte n'a pas l'intention de réguler l'alimentation des gens. Il n'est écrit nulle part qu'il est interdit de vendre du bœuf.
Suite à un recours des grossistes de viande, la Cour suprême a récemment suspendu ce décret national et le gouvernement va devoir revoir sa copie. Cependant, dans l'état de l'Uttar Pradesh, beaucoup de boucheries demeurent fermées et le commerce de viande précaire. Par ces différentes actions, les autorités mettent en péril une industrie florissante. L'Inde est en effet le premier producteur de lait et surtout le plus grand exportateur de viande de bœuf au monde, du buffle en l'occurrence, qui est envoyé principalement vers les pays musulmans. Ce commerce engrange environ 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et emploie directement 2,5 millions de personnes. Cela représente le premier produit agricole d'exportation. Ces revenus, déjà touchés par la démonétisation de novembre dernier, devraient stagner cette année, selon Fozana Lavi, secrétaire générale de l'Association indienne des exportateurs de viande.
Nous ne sommes pas contre une meilleure organisation des processus. Il est important d'avoir de la nourriture hygiénique. Mais ces réformes doivent être appliquées en offrant des alternatives aux acteurs, leur dire ce qui est mal fait, leur montrer comment mieux le faire et où le faire. Et si cela n'arrive pas, fermer le commerce. Vous ne pouvez pas tout fermer et les laisser dans le flou. Regardez le chômage et l'agitation que cela crée. Et pas seulement cela. Si vous ne mangez pas de viande pendant 2 ou 3 mois, vous n'en mourrez pas. Mais celui qui vit en vendant 5 kilos de viande tous les jours, qu'est-ce qui va lui arriver ?
Fozana Lavi est également le directeur d'Alana Sons, le plus grand exportateur de viande de buffle du pays. Ses abattoirs, qui sont mieux entretenus que la moyenne nationale, ont peu été touchés par cette crise. Mais c'est la chaîne d'approvisionnement qui est perturbée car les fermiers ne peuvent pas vendre leur animal au marché ou se font attaquer sur la route par des hindouistes. Selon lui, cette frénésie est inédite.
Nous n'avons jamais vu cela depuis 45 ans que nous exportons du buffle. L'abattage de la vache est une question sensible et nous respectons cela. Mais ces personnes sont également devenues les protecteurs des buffles maintenant. Or, les deux races n'ont rien à voir entre elles. Les hindous se fichent du buffle.
Le parti du BJP est en pleine ascension électorale. Il détient la majorité absolue à la Chambre basse fédérale depuis 3 ans et contrôle maintenant 17 des 29 États du pays. À chaque fois qu'il conquiert une nouvelle région, l'une de ses premières mesures est de renforcer la lutte contre le commerce de vaches, un puissant ciment idéologique qui fait cependant face à une forte résistance dans les régions comme le Kerala, où le bœuf est l'un des aliments préférés des hindous comme des chrétiens. Plus inquiétant, les attaques menées par les groupes hindouistes contre le transport de bétail sont également en forte croissance, principalement dans ces États contrôlés par le BJP. Les responsables du parti condamnent ces attaques, mais les faits sont là. Selon un décompte mené par le site d'information India Spend, 61 attaques de la sorte ont été rapportées par les médias depuis l'arrivée des nationalistes hindous au pouvoir en 2014, entraînant la mort de 23 personnes, la majorité des musulmans. Et ces agressions ont augmenté de 75% dans les 6 premiers mois de cette année. À la fin juin, c'est un adolescent musulman de 16 ans qui est poignardé par un groupe d'hindous qui l'aurait accusé d'être un mangeur de bœuf. Un crime qui sème l'effroi dans tout le pays. Quelques jours après, ils sont des milliers à descendre dans les rues de plusieurs villes indiennes pour protester contre ces attaques islamophobes. Mohamed Jabir, lui-même musulman, observe ce racisme au quotidien dans son village situé à 130 km de New Delhi.
Il y a 2-3 mois, un homme qui portait une longue barbe a été suivi par un groupe. Ils l'ont tué d'un coup de pistolet. Ce genre d'incident arrive souvent maintenant. Tout musulman devient une cible.
Le village d'origine de cet homme, Muzaffar Nagar, a justement été le théâtre de pogroms anti-musulmans en 2013 qui ont coûté la vie à 62 personnes et auraient été encouragés par des députés locaux du BJP. 2 d'entre eux ont été mis en examen pour ces actes, mais viennent d'être réélus avec le soutien du parti. Prabir Prokayasta, un universitaire hindou venu à la manifestation, estime que ces attaques sont encouragées par ces nationalistes.
Il y a une croissance coordonnée de cette haine et de ces violences. De grandes campagnes sont organisées par WhatsApp. Le harcèlement est planifié sur Internet. Des groupes sont envoyés pour attaquer les camions qui transportent du bétail. Et le gouvernement ne condamne jamais ces actes, ce qui prouve sa complicité.
Le lendemain de cette manifestation nationale, le Premier ministre Narendra Modi condamne finalement les violences menées au nom de la protection de la vache. C'est la première fois qu'il réagit à ces attaques contre les musulmans depuis son élection il y a 3 ans. Mais selon le BJP, ce silence n'est en aucun cas un signe de tolérance. Les assaillants présumés du jeune musulman de 16 ans ont par exemple été arrêtés quelques semaines après les faits, rappelle le porte-parole du parti. Nalin Kohli réfute ainsi toute discrimination sociale par le gouvernement.
Montrez-moi un exemple de politique de discrimination religieuse. 20 millions de citoyens indiens ont abandonné leurs subventions de gaz pour en faire bénéficier les pauvres. Y a-t-il eu une distinction entre les hautes ou basses castes, les hindous ou les musulmans ? Non. Quand nous construisons des toilettes pour les femmes ou promouvons l'éducation des filles, y a-t-il une différence ? Non. Notre politique est guidée par un credo intitulé « Le développement pour tous ». Le Premier ministre a dit ceci dès le premier tour. Il n'y a qu'un livre que je lis, c'est la Constitution indienne, et elle traite tout le monde de manière égale.
And that's the Prime Minister on his first day said. To me, there is only one book that I look at, that's the Constitution of India.
Le gouvernement du BJP ne promeut pas en effet ouvertement de discrimination ou d'attaque contre les musulmans, mais sur le terrain, ces militants sont issus de la galaxie du RSS, cette énorme organisation paramilitaire hindoue dont l'objectif principal est clair, faire de l'Inde une nation hindoue et effacer toute influence musulmane. Et pour cela, l'adoration de la vache et par extension la non-consommation de viande sont devenus des symboles très puissants qui permettent de séparer les hindous des autres. C'est ce que ressent Syed Yunus, travailleur social musulman de New Delhi.
Les hindouistes mènent une sorte de croisade religieuse. Selon leur idéologie, une personne qui mange de la viande est démoniaque. Donc si vous voyez quelqu'un qui la frappe, vous ne devez pas intervenir. Dans cette logique intolérante, insulter ou battre une personne qui mange de la viande est devenue la nouvelle norme. C'est la même mentalité djihadiste qui est propagée par les extrémistes musulmans.
Pourtant, ce fameux symbole de la vache sacrée est très récent, c'est même une création moderne de la part de ces hindouistes. Car dans l'antiquité indienne, les hindous et même les brahmanes sacrifiaient des vaches et mangeaient de la viande de bœuf. Cela a été prouvé par de nombreux académiciens, dont Vijendra Narayan Jha, lui-même brahman et auteur d'un ouvrage intitulé « Le mythe de la vache sacrée ».
Un mouvement qui a été construit autour de la vache n'est pas plus âgé que 100 ans ou 150 ans.
Le mouvement construit autour de la vache date d'à peine 100 ou 150 ans, car avant cela, il y a de nombreuses preuves tirées des écrits religieux qui démontrent que les brahmanes mangeaient de la vache. Dans les textes védiques qui sont les plus anciens en Inde, nous trouvons des références de chair de vache offerte aux dieux. Et vous savez, les dieux ne mangent pas vraiment, donc ce qui est sacrifié pour eux, vous le mangez vous-même. Cette viande n'étant donc pas seulement pour les prêtres, mais distribuée pour toute la population.
You eat yourself. Not only priests, but it may be distributed among others also.
Ces textes datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ et cette pratique perdure au moins jusqu'au 5e siècle de notre ère. À ce moment, la population indienne se sédentarise et la vache acquiert une plus grande importance pour son lait et pour l'agriculture en général. Mais cela ne devient pas pour autant un crime de tuer une vache. Il suffit seulement de payer une certaine somme d'argent à la société pour le faire. Ce n'est donc qu'à la fin du 19e siècle, avec l'émergence du nationalisme hindou moderne, que la vache devient un instrument politique pour promouvoir cette identité religieuse. Aujourd'hui, dans la plupart des États indiens, tuer une vache est un crime, et dans la région du Gujarat, un tel acte est même maintenant puni de la prison à vie. Pour le professeur Jha, cette nouvelle lutte sacrée est au cœur du programme de l'organisation hindouiste du RSS et de son bras politique, le BJP.
The main objective of the RSS and the BJP is to establish a Hindu state.
Le principal objectif du RSS et du BJP est d'établir un État hindou. Dans ce sens, je dirais qu'il y a peu de différence entre le RSS et l'organisation de l'État islamique. Ce que l'État islamique fait, c'est à grande échelle. Ils veulent établir un califat au niveau mondial. Le RSS pense que l'Inde peut être convertie en un État hindou. Les méthodes sont différentes, mais l'objectif est le même. Car quelle est la différence entre un califat et un État hindou? La dernière étape vers cette hindouisation est la nomination de cet ascète hindou Yogi Adityanath comme chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh. Nommez 5 ou 6 autres prêtres à la tête des autres états et vous aurez en effet un état hindou.
Let us have 5 more sadhus or 6 more sadhus and a chief minister and the country will become Hindu.
C'était La guerre sacrée au nom de la vache, un grand reportage en Inde de Sébastien Farsi, réalisation Sandrine Straram.